RMC.
Forcément qu'il y aura des priorités, mais ça ne veut pas dire que la dernière des priorités sera une priorité aussi.
Le Super Football Show.
Vous comprenez ce que je veux dire?
Je vous entends parler, je vous entends écrire.
C'est intéressant d'avoir plusieurs arcs à son flèche, donc c'est bien.
Jusqu'à minuit, c'est l'After Foot, Jean-Christophe Drouet.
Salut à tous, c'est l'After, la seule émission au monde que vous pouvez suivre à la radio sur RMC, à la télé sur BFM Sport et sur Internet sur le site rmcsport.fr. Nous sommes ensemble, comme d'habitude, jusqu'à minuit. Et pour vous régaler ce soir, un membre de l'After qui n'aurait jamais mis Sangaré dans ses flops hier soir, Daniel Riolo. Salut Daniel.
Salut tout le monde.
Bah, je fais
un clin d'œil à Pierre quand même.
Bah évidemment,
ça peut arriver à tout le monde.
Petit clin d'œil à Pierre Ménès, un membre de l'After qui n'a jamais perdu face au Real Madrid, Pierre Ducrot. Salut Pierre.
Salut, ouais, j'ai perdu d'autres matchs et pas contre le Real.
Bah oui, parce que tu n'as jamais joué contre le Real.
Contre pire que ça, oui, en plus j'ai jamais joué contre le Real.
Voilà, c'est pour ça que je le disais.
Non, mais dans sa première partie de réponse, je l'ai regardé, j'ai douté, beaucoup il a joué contre le Real.
Non, pas du tout.
Je pensais qu'il allait commencer par dire j'ai jamais joué, mais ça m'a fait douter, j'ai cherché dans les matchs et tout, j'ai dit mais merde.
Non, jamais.
Non, je m'en souviendrai. C'était une petite quiche gratuite comme ça pour
débuter
l'émission.
Attends, écoute, c'est normal.
Est-ce que vous savez à partir de 23h qui sera avec nous dans le studio?
Bien sûr. Mais on va faire comme si on le savait pas pour que tu puisses l'annoncer.
Simone Rovera, évidemment. Oui, mais aussi Philippe Auclair.
Il est dans sa visite annuelle.
Eh oui, exactement.
Ah, il fait une visite par an, Philippe?
Une fois par an, il passe à Paris, il nous fait.
D'accord.
C'est le lundi, voilà. Il prolonge son week-end, il sera avec nous, ce sera à partir de 23h. Venez nous interpeller, vous le savez, par téléphone au 3216, le hashtag RMC Live ou l'application Direct Studio. Programme ce soir, la vie tranchée de Daniel Riolo sur l'envahissement de terrain à Lille. Stop à la schizo, la vie tranchée de Pierre Ducrot. Leonardo Jardim est le meilleur entraîneur de Ligue 1. Et de loin, tu vas nous expliquer pourquoi. À 22h45, la question de l'after, le héros Mitroglou, la galère de Nabil Fekir, la déclat de Dani Alves ou encore la liste des 23 pour la Coupe du Monde. Et puis à partir de 23h, les drôles de dames évidemment, comme tous les lundis, pour tout savoir sur l'actualité européenne du week-end, avis tranché, notamment sur Paul Pogba et Ousmane Dembélé. Le tour des lives avec notamment cette rencontre de Ligue 2 entre Lens et Bourg-en-Bresse. Salut Jean Baumel.
Salut JC, salut Daniel, salut Pierre.
Salut Gibo.
0-0, 62 minutes de jeu dans une ambiance très particulière puisque les supporters lensois se retournent contre leurs joueurs. Ils les chambrent en chantant « Allez les chèvres, allez les chèvres ». Et une ribambelle de banderoles, je me permets d'en donner une qui m'a fait plutôt rire, même si c'est un peu grossier. Vous faites chier, même les constipés.
Ok.
Ouais. Hein.
C'est plus marrant qu'un envahissement de terrain.
Exactement. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport à ce qu'on a vécu samedi. Il y a que sur FIFA que vous êtes bon. Il y a 20 ans, on avait la meilleure équipe de l'histoire du Racing. C'est vrai parce qu'ils étaient champions. Maintenant, on a la pire. S'il n'y a pas le feu au lac, quand aurez-vous le feu au cul? Bon, c'est.
Non, mais cas,
ils
forme,
franchement, ils
en
ont sorti une bonne vingtaine et je crois que c'est pas fini. Voilà, ambiance très particulière et voilà, sinon sur le jeu, ça domine comme d'habitude, mais surtout ça n'arrive pas à inquiéter le gardien adverse. 0-0, on rappelle quand même que les deux équipes jouent le maintien, même s'ils lancent un petit peu de marge, mais voilà, c'est pas terrible quand même le spectacle sur le terrain. 0-0.
Et puis sachez qu'il y a une autre rencontre, la 30e journée de Premier League, Stoke City Manchester City. Pour l'instant, les Citizens mènent 1-0. But de David Silva. Premier avis tranché de l'after ce soir, c'est celui de Daniel Riolo.
Eh ouais, l'arbitre, s'il avait fait ça, et puis nous, si on avait fait ça, et si un pigeon était venu chier sur le ballon au moment où Samson l'avait tapé, il aurait glissé son pied dessus.
Alors Daniel, tu ne veux pas parler de ça, mais tu veux parler et tu veux revenir sur les incidents qui se sont déroulés à Lille samedi soir.
Oui, je veux revenir sur l'indignation qu'on a entendue un petit peu partout. Alors Patrick Kanner, l'ancien ministre, je comprenais pas grand-chose quand il parlait qu'il était ancien ministre, donc là, il était ministre, là, ancien ministre, ça m'étonne pas qu'il tape encore une fois à côté. Donc non, monsieur, ce sont pas des hooligans samedi soir qui ont envahi la pelouse. Les hooligans, c'est les supporters qui se tapent contre d'autres supporters dans des batailles organisées qui enlèvent de la barbarie urbaine. C'est pas exactement ça qu'on a vu. Encore faut-il essayer de comprendre ce qui s'est passé, tout en disant une fois de plus et mille fois en préambule que rien ne justifie la violence physique. Ce qui s'est passé, c'est, je l'ai dit hier soir, je vais développer un petit peu plus, mais c'est quelque chose que dans le football, non seulement n'est pas rare, on le voit et on pourrait le voir de plus en plus, c'est quand le social rencontre l'économie et que ça peut produire un choc. C'est quand la violence du peuple rencontre la violence économique. On a vu à West Ham que ça ressemblait à ça, à Hambourg. Ça pourrait arriver à Sochaux où on a également pris les supporters pour des cons dans un club historique qu'on a tué. Grenoble n'est pas du tout un club historique, il y a rarement eu du football, mais on a également flagué un club parce que des investisseurs, des spéculateurs viennent, jouent au Monopoly et coulent simplement ce qui à la base est une institution populaire. Ça arrive et tout à l'heure Jean Baumel nous parlait de Lens, là-bas aussi les supporters sont en colère, pour l'instant c'est des banderoles, mais ça pourrait changer parce que là-bas aussi il y a un vrai soutien populaire. Le foot, comme on expliquait hier soir, c'est un fait social, étudié par des sociologues, raconté par des écrivains, suivi par énormément de gens dans le monde. C'est le sport le plus populaire. Et quand je dis qu'il faut arrêter avec la schizo, c'est d'abord celle des dirigeants qui, la plupart du temps, ont besoin des supporters, qui les draguent, les allument, les sanctionnent, disent qu'il faut qu'ils viennent parce que ça remplit le stade, parce que les joueurs ont soutien, parce que sinon les joueurs ne jouent pas bien quand ils n'ont pas le peuple qui soutient. C'est les médias qui, par exemple, obligent les caméras à se mettre là où il faut pour qu'on montre l'ambiance, pour que ça donne des belles images. Quand le virage est fermé parce que il y a eu sanction, les médias font la gueule parce que d'un coup l'image elle est pas belle et puis d'un coup il y a plus du tout d'ambiance dans le stade parce que si les cons qui viennent chanter sont pas là, c'est pas avec les autres gens qui viennent au stade que ça va donner de belles images et d'un coup le spectacle en prend un coup puisque c'est un spectacle quand il y a un huis clos. De la même façon, tout le monde fait la gueule. D'ailleurs, je l'ai dit ici, il faut trouver un autre moyen de sanctionner quand on a besoin de soutien. Quand les joueurs ont besoin de soutien et qu'ils ne veulent pas être secoués, parce que eux, ils sont là que pour prendre leur salaire, évidemment, tu penses. Ils sortent, tu vois, faire la fête avec des supporters qui ont des fumigènes devant un hôtel ou quand il y a un rassemblement, référence à ce qui s'est passé avant le match du Real. Quand Neymar arrive, la direction du club, c'est génial quand tous les supporters viennent avec les fumis devant le stade, parce que Neymar, comme ça, il sent le soutien populaire. Genre clin d'œil, tu t'es pas gouré de club, hein, mec. T'as vu ça un petit peu ce qu'on a nous ici. C'est génial. Hein. Si tu joues comme une chèvre, malgré ton salaire exorbitant, t'inquiète, ils vont fermer leur gueule. On leur fera fermer leur gueule. Ils diront jamais rien. Non, je pense pas que ça se passera comme ça. Quand un club finit par être coulé, les mêmes médias, on va faire des super reportages sur les supporters, les vrais, ceux qui même en CFA vont supporter l'équipe, un peu comme ça s'est passé à Strasbourg, on a raconté, ou à Bastia, qu'on a fini par couler parce que des dirigeants irresponsables ont coulé le club. Et maintenant, je crois qu'ils doivent être en 5e division. Donc, je sais pas, le supporter, c'est quoi au fond? On a envie de quoi dans les responsables du foot, que ce soit juste un pantin? Donc, moi, les Philippe Pia, qui aujourd'hui vient donner des leçons, qui lui, en plus, est dans un syndicat, puisque lui, il défend les intérêts des joueurs. Lui, il pense qu'aux joueurs. Le reste, il n'a rien à cirer dans la vie du foot. Les Patrick Caner, tous ces gens-là qui n'ont pas l'air de réellement comprendre ce qu'est le foot dans son ensemble, qui veulent juste que les gens qui viennent au stade soient des pions ou les supporters, et puis les autres des clients éventuellement pour acheter le hot dog, les maillots et compagnie. Le supporter, sauf en cas de hooliganisme, j'ai dit tout à l'heure ce que c'était, il peut en aucun cas être le seul responsable d'un acte de débordement. J'accepterai, moi, jamais cette idée. On m'a dit aujourd'hui sur Twitter, le parallèle, j'y avais pensé mais j'osais pas le faire, mais j'ai entendu les infos il y a 5 minutes de Jamila Zegoudi et elle parlait du procès de la chemise arrachée des salariés d'Air France. Je pense qu'il y en a d'autres qui ont dû faire un petit peu ce parallèle-là, finalement. On écoutera l'issue du procès, de ce que ça a donné, comment on a apprécié ça. À un moment, il va falloir qu'on trouve une place. Je sais pas quelle sera la place pour les supporters. En aucun cas, je crois que de toute façon, ce sera viens, chante, ferme ta gueule. Ça n'a jamais été ça. Ça sera jamais
ça.
Si de toute façon, depuis toujours, on nous a expliqué que le foot c'était un business, que le club c'était une entreprise, est-ce que le supporter doit être considéré comme le supporterisme comme une forme de syndicat? peut-être. Donc il faudra qu'il trouve le moyen de s'exprimer sans forcément tomber dans la violence. Moi, je demande pas à ce qu'il gère. J'ai jamais été pour que les supporters gèrent les clubs parce que leurs idées, j'ai souvent dit qu'elles étaient pas forcément bonnes. Il y en a un paquet en plus qui voilà réagissent sous le coup de la passion et disent souvent des conneries. Donc je veux pas leur demander de gérer le club. Je veux pas qu'ils se prononcent sur la politique sportive du club non plus. Chacun doit rester à sa place, mais dans le même temps, je pense que quand tu te fous de leur gueule, ils seront là pour te le dire. Je termine, c'était un peu long, mais la vie de ce soir était importante et me tenait à cœur depuis samedi maintenant. Puisqu'on parle beaucoup d'économie, personne n'ignore que le supporter et les clubs de supporters, de toute façon, sont un actif économique du club. La richesse de Saint-Étienne, c'est aussi son soutien populaire. Et vu les résultats de ce club, depuis la fameuse épopée des années 70, sans le soutien populaire, je pense que l'actif de ce club, il serait zéro. S'il existe encore ce club, je pense que c'est grâce à ça. À l'OM, on en parle.
Tu vois Lens.
À l'OM, on n'en parle même pas. Lens, tu as absolument raison. J'allais le dire. Certains disaient, mais pourquoi Lens, ils sont toujours diffusés le lundi soir alors qu'ils sont au chou dans le classement.
Parce que c'est un stade avec 25 000 personnes. Même
pourquoi d'après vous? Pourquoi d'après vous? Voilà. Donc nier l'actif que économique pour le coup, puisque que ça représente les supporters, je pense que ce serait une erreur. Donc je sais pas, il paraît qu'on veut organiser plein de réunions, savoir quelle va être la place du supporter, et bien qu'on continue, et je suis dispo pour en parler. Il y a pas mal de gens qui sont dispo pour ça, des sociologues qui étudient la question depuis longtemps. On est là, mais en tout cas, des Philippe Pia, des Canner et tout, ça sert à rien qu'ils viennent aux réunions parce qu'ils sont largués, mais alors largués depuis très longtemps.
C'est la fin de cette émission, merde. Non, je blague évidemment. Merci Daniel. Et tu as eu raison.
Je reconnais que c'était super long.
C'était long.
C'était long. Franchement, j'avais même pris des notes, ce qui est très rare.
T'as des petits mots béquilles.
Franchement,
mais pas
tu avais préparé l'intervention et on n'avait pas envie de te couper parce que c'était fort.
Merci.
Si moi j'avais envie, mais je me parle.
C'est vrai.
Merci.
Non mais t'as vraiment dit ce que tu avais sur le cœur. Si. En gros, et je voudrais pas paraphraser, mais est-ce que tu penses aussi que les dirigeants lillois sont aussi quelque part coupables que les supporters
sur ce qui arrive au club? Oui, très très certainement. On le constate tous là en ce moment dans le football, les décisions qui ont été prises sur le choix d'un coach, sur de comment composer cet effectif, sur l'annonce d'un projet qui est pas du tout celui qui est respecté ensuite derrière. Oui, le club a des responsabilités. Après, là où j'ai plus de mal, Daniel, avec ton avis, enfin c'est sur une partie de ton avis en tout cas, c'est quand tu dis que parce qu'un club demande à des supporters d'être présents, de venir effectivement faire du bruit, chanter dans un stade, etc., ça donnerait le droit à une, et je vais inciter une petite minorité, parce qu'à chaque fois c'est pas une masse, hein, de supporters.
Non, moi je dis pas que ça donne le droit, je dis que ça ouvre la porte à, c'est tout. C'est tout.
Pourquoi,
mais moi je ne le justifie pas encore une fois.
Pourquoi?
Moi
j'ai du mal à comprendre ça,
Pierre.
Aujourd'hui,
parce que l'expression du peuple, elle est parfois violente.
Oui, d'accord, mais effectivement,
encore une fois,
moi, foot, c'est pas
moi je
pareil,
même quand les syndicats font des manifs dans la rue et qu'ils cassent tout, je suis le premier à le dénoncer.
Ouais, sauf que c'est pas les syndicats,
un syndicat, c'est encadré. On connaît le rôle dans une entreprise.
Ouais, mais tu sais que c'est difficile de
dans
gérer.
Le foot, c'est ce flou qui amène le débordement.
Alors, sauf que
il faudrait définir quelque chose.
Alors oui, il y a des choses à faire. Oui, il y a des choses à faire. Je suis d'accord avec toi. Il y a sûrement des choses à faire, et tu l'as bien dit aussi. Il y a des gens qui s'y penchent depuis très longtemps, plus que nous. Et malheureusement, ils n'ont pas encore la solution, parce que je pense que c'est complexe. Mais Gibault nous l'a dit. Des banderoles dans un stade, c'est un bon moyen. Alors, ça peut paraître un peu futile, parce que on en rigole. Mais c'est un bon moyen de dire ce qu'on pense quand on est supporter. Siffler, huer des joueurs qui mouillent pas un maillot sur un terrain, je ne dis pas que c'est le cas à Lille. Je ne pense pas que ce soit le cas à Lille. Je pense qu'ils sont en difficulté, mais que c'est pas le cas à Lille actuellement et qu'ils ont besoin de soutien justement, ces jeunes joueurs. Mais ça peut être aussi parfois un moyen aller déborder, enfin en tout cas envahir un terrain.
Bien sûr qu'il y a d'autres moyens d'expression. On est d'accord, Pierre. Je suis absolument d'accord avec toi.
Je pense que ça fait pas avancer les choses.
Mais je suis pas en désaccord. Évidemment, il faudrait trouver d'autres moyens. Évidemment, bien sûr.
Mais ce qui est vraiment remonté du stade après la rencontre, en tout cas les supporters nous l'ont dit, d'ailleurs vous pouvez nous appeler supporters lillois au 32-16, ce qui est vraiment remonté c'est que les supporters, c'était pas du tout prévu, d'ailleurs la semaine qui suivait Jean Baumel nous l'a dit plusieurs fois sur RMC, on appelait à l'Union Sacrée. Donc ce qui s'est passé c'est que 3, 4, 5, 6, 8, 10 supporters ont dit bon, on va marquer le coup, et donc beaucoup ont suivi et beaucoup aussi ne se sont rendu compte que il y avait 2-3 énergumènes qui pouvaient aussi aller molester des joueurs. J'imagine que c'était pas non plus prévu.
Je le crois aisément. Souvent c'est le phénomène de masse, hein. Il y a 15, comme tu le dis, il y a 2 ou 3 dizaines de personnes qui sont eux vraiment fous et idiots, qui démarre, et puis derrière t'as un phénomène de masse où ça suit. Mais on l'a vu sur les images de Lille, t'as des gamins de 15-16 ans qui sont sur la pelouse, qui rigolent, qui se prennent en selfie, qui sont pas là pour aller taper des joueurs, juste qui rigolent, sauf qu'ils se rendent pas compte que dans le phénomène de masse il est impressionnant et qu'il est surtout déplorable pour l'image du foot français ou du foot tout court d'ailleurs.
Quentin, supporter lillois, nous appelle au 32-16. Salut Quentin.
Oui, bonsoir monsieur.
Bonsoir Quentin.
Bonsoir. Que penses-tu de notre débat? Tu étais déjà au stade toi lundi?
Ouais, j'étais au stade, je suis abonné en tribune nord, donc la tribune des DVE. J'étais pas présent sur le stade, mais c'est compliqué à expliquer, mais j'ai noté plusieurs points et je pense pouvoir vous expliquer à peu près comment on en est arrivé là en fait.
Eh bien, on t'écoute.
Bah, d'ailleurs, dans un premier temps, il y a l'énervement, il est surtout dû au manque d'implication et d'envie des joueurs. Ça, c'est criant. À chaque match, il y a des joueurs qui... Déjà, ce qu'on constate, c'est que Lille, c'est une mi-temps sur deux. Et ça, c'est compliqué à expliquer. Et il y a des joueurs qui donnent pas l'envie et l'implication nécessaire.
T'es sûr que c'est une question d'envie?
Je crois que c'est réellement une question plutôt
de compétence, malheureusement pour eux, sans chambrer ou quoi que ce soit, mais je crois que c'est plutôt une question de compétence, moi. Et aussi de contexte, ouais. Effectivement.
Mais le problème, c'est que si on prend les joueurs un par un, ils ont tous à peu près le niveau que, mais même si on n'avait pas le niveau, il y a certaines équipes qui, avec l'envie et la motivation
font mieux.
Ils vont réussir. Mmh. Nous, c'est pas l'impression qu'on donne et,
Je crois que les joueurs, là, ne pensent qu'à se barrer, mon vieux, hein.
Bah ouais, c'est ça le problème.
Aujourd'hui,
mais ce qui s'est passé, ça va pas les aider. Hein.
Mais le problème, c'est justement avec ce qui s'est passé, il y a eu plusieurs faits au cours de la saison qui en est arrivé là. Quoi.
Donc tu nous parlais de l'envie. Il y a quoi d'autre? En tout cas, samedi soir.
Il y a eu notamment une fois où avec les DVE se sont réunis devant l'hôtel des joueurs la veille d'un match pour une mise au vert à domicile. Pour essayer de discuter avec les joueurs, et les supporters ont été accueillis par certains joueurs, bon, je vais citer les noms, hein, Pépé, Bissouma, Arojo et tout ce qui s'en suit, qui dans le bus rigolaient et allaient même jusqu'à faire des doigts d'honneur aux supporters.
Ah ben ça, c'est aussi irresponsable que les supporters qui ont envahi le terrain. Ouais. Aussi, si c'est le cas, ouais, effectivement, t'as raison de le souligner, et c'est aussi irresponsable
le problème,
et aussi idiot.
C'est l'attitude de certains joueurs qui font preuve de
bêtises, de conneries.
Mais ouais, c'est clairement certains ne donnent pas envie. C'était des mercenaires. Il y en a beaucoup qui donnent l'impression d'être des mercenaires, d'être là que parce que on leur a proposé un bon chèque et puis c'est tout quoi.
Tu vois, Quentin, moi je dois être naïf encore parce que j'ai pas été bon toute ma carrière. Hein. Mais ça, moi, j'arrive pas à le concevoir quoi. Un joueur qui vienne signer un beau contrat, oui, bien sûr, je suis pas dupe, je suis agent de joueur. Je sais que ça existe et je sais que c'est important pour certains joueurs. Mais qu'un joueur après une fois dans une équipe ne donne pas tout, j'ai du mal à le concevoir et j'ai du mal à concevoir effectivement. Mais je te crois sur ce que tu me dis, hein, puisque tu l'as vu ou on te l'a raconté. Mais j'ai du mal à concevoir que. Qu'un ensemble, l'ensemble du groupe lillois n'est pas impliqué et que ce soit que des mercenaires. Quoi.
Je vais ouvrir une petite parenthèse.
J'ai peur qu'à Bollard, les banderoles ne suffisent plus.
Ouais. Oui,
alors
exactement.
Faut les mettre devant le but.
C'était la parenthèse que je voulais ouvrir. Jean Baumel, Bourg-en-Bresse vient de marquer
signé
à Bollard.
De la part de Yanis Merji à la 77e à l'instant, mais une frappe en pleine lucarne.
Ouais, il est beau. Ouais.
Et voilà, les Lensois qui dominaient, pas encouragés par leur équipe, hein, je vous l'ai dit, des banderoles, des sifflets, des chants. Pas très sympa et voilà, ils sont punis à 13 minutes de la fin. Du coup, ça va relancer Bourg-en-Bresse en vue du maintien. Et Lens va se retrouver dans une situation un petit peu fâcheuse. Ils ont encore un petit peu de marge, mais attention, ils vont devoir réagir parce que là, ça peut être un petit peu plus tendu ici au Stade Bollaert. 12 minutes encore à jouer, 1-0 pour Bourg-en-Bresse.
On va suivre évidemment hein, cette ambiance à Lens. J'en profite aussi pour vous dire que Manchester City mène désormais 2-0 sur la pelouse de Stoke avec un deuxième but, doublé pour David Silva. Daniel, est-ce que à un moment donné, on voit qu'il y a les dirigeants ont tout de suite réagi pour demander de sanctionner fermement les fauteurs de troubles. On sait que le dossier va être instruit par la commission de discipline dès jeudi. On sait que le LOSC a déposé plainte pour violence aggravée, dégradation de biens et menace de mort. Est-ce que tu trouves ça bien quand même que les dirigeants lillois prennent à bras le corps ce problème ou ils devraient aussi d'abord se regarder?
Mais évidemment, de toute façon, il y aura une dizaine d'interdictions de stade. Évidemment, à partir du moment où tu commets un acte de délinquance, tu vas te faire arrêter, ça va déboucher sur interdiction de stade, peut-être autre chose, j'en sais rien. Voilà, eux, ils sont dans leur rôle. Maintenant, faut pas qu'ils s'arrêtent simplement à ce rôle, parce que là, qu'ils se soucient aussi de la gestion du club, s'ils sont en train de le couler. Bah, les mecs, ils ont joué au Monopoly. Si on doit parler de Lille, il faut parler de Seydou, qui, pendant des années, ce mec m'a séduit. J'ai adoré rencontrer ce type-là à une époque. Avoir passé une heure ou deux avec lui m'avait enrichi pour pas mal de temps. Là, aujourd'hui, je l'ai trouvé minable.
Dans ce qu'il a dit?
Minable. Il a vendu le club à ce mec-là. Il s'est planté dans son choix. Il a voulu s'en débarrasser. Et puis derrière, il vient juste dire « c'est Bielsa qui a coulé le club ». Mais voyons, non, mais de quoi on parle, arrêtons, on va essayer de trouver, chacun va trouver son petit responsable. Oui, en plus, c'est plus facile de mettre responsable celui qui s'est barré à 10 000 km de là, comme ça, bon, voilà, on mettra le truc sous le tapis. Et puis voilà. Non,
malheureusement pour eux, si ça avait été ça irait mieux depuis un moment.
Si ça avait été que ça, t'aurais eu le choc psychologique avec les joueurs que t'as. T'aurais au moins aussi à te sauver.
Ça
va même être compliqué. Et puis surtout, n'oublions pas un truc, monsieur Seydoux. C'est pas Bielsa. Qui fait qu'aujourd'hui virtuellement le club est en Ligue 2, parce que virtuellement le club est en Ligue 2. La DNCG a dit qu'économiquement pour l'instant le club est en Ligue 2 tant que Lopez il a pas apporté l'oseille.
Et bien justement, on va écouter Gérard Lopez, c'était hier sur RMC, une exclusivité après ce qui s'est passé samedi soir, et il va surtout parler de sensationnalisme au niveau de la presse pour expliquer aussi ce chaos à Lille.
C'est une saison en fait qui est compliquée, et en plus moi j'ai cette impression qu'il y a tout le temps du sensationnalisme autour de ce qui se passe, c'est-à-dire que un club qui limoge un entraîneur aussi connu soit-il, il y en a quasiment toutes les semaines dans tous les championnats du monde. Chez nous ça fait un tollé pas possible. Un club qui est 19e, c'est pour moi inacceptable. Je suis fâché et triste, mais il faut bien reconnaître qu'on n'a pas une bonne saison, qu'on doit remonter dans les 9 matchs qui restent, mais là aussi ça fait partie du football. Des bonnes et des mauvaises saisons, nous on est carrément dans une mauvaise saison. Un club qui a passé la DNCG cet hiver et on a eu le problème du dossier qu'on a eu, c'est pas la première fois non plus, d'ailleurs c'est pas même pas la première fois pour le LOSC, et j'ai l'impression que ce qui est quelque part navrant, c'est que j'ai une grosse impression de sensationnalisme autour du LOSC pour tout, depuis le départ d'ailleurs. Ça me dérange fortement et j'ai du mal à accepter ça pour le club.
Qu'est-ce que vous en pensez, Pierre?
Alors, il n'y a qu'une chose où il a raison, c'est que oui, effectivement, c'est du foot, et qu'à un moment donné, dans un championnat de Ligue 1 qui plus est, tu peux te retrouver, peu importe qui tu es et peu importe ton budget, dans une situation délicate comme ça, à 9 matchs de la fin. Ça, oui, il a raison. Sauf que sur tout le reste, pour moi, il a tort. Déjà, le côté Lille est victime d'une surmédiatisation,
d'une cabale,
etc. Je pense pas qu'il lise les journaux avec ce monsieur, parce que n'importe quel coach, effectivement, alors il a failli dire en plus reconnu, mais non, connu comme Bielsa, ça fait effectivement beaucoup parler quand ce genre de coach est limogé. Ça fait beaucoup parler quand une équipe avec un soi-disant grand projet qui démarre se plante comme ça. Aussi rapidement.
Il était content quand on en parlait. Il était content quand on faisait les caisses de son projet, quand on y a tous cru à son projet. Il était content qu'on en parle.
La victimisation, en tout cas la surmédiatisation dont il se plaint, ça existe partout, et encore en France, on est très gentil.
Quentin qui nous appelle au 32-16, le supporter lillois, est-ce que tu as un petit mot à rajouter sur tout ce qui s'est dit? Est-ce que tu veux répondre peut-être à Gérard Lopez?
Ouais, à Gérard Lopez, puisque là je vous parle de quelque chose qui a eu lieu le 5 mars. Il y a eu une réunion de Monsieur Gérard Lopez avec les groupes de supporters, et donc il y a eu un compte rendu qui a été fait par un groupe de supporters, et Monsieur Lopez a déclaré donc à la fin de cette réunion qu'il était étonné de voir un tel soutien pendant 90 minutes et de ne voir les mécontentements qu'au fin des matchs. Il pousse les supporters à pousser, même à gueuler contre les joueurs s'ils n'apportent pas satisfaction. Donc après on s'étonne qu'il y a des débordements.
Ça je l'ai pas dit tout à l'heure dans mon avis. T'as raison Quentin de rappeler ça.
Ouais. Oui, mais messieurs, alors je veux pas lui donner raison, mais ça donne pas droit à Quentin à envahir un terrain. Qu'un président te dise effectivement, je suis d'accord avec vous, les joueurs sont pas bons et faites-leur savoir, criez, huez si vous voulez.
Comme ce qui se fait à Lens.
Comme ce qui se fait à Lens, là il y a de la lecture dans les tribunes de Lens. Le COP, il est recouvert de banderoles. Tu comprends qu'à un moment donné, aller trop loin, ça va vous desservir vous, ça va desservir le club aussi. Je te parle même pas des joueurs ou de Lopez.
Quentin, réponds-moi par oui ou par non. Est-ce que tu es un supporter en colère?
Oui, en colère, oui.
Oui, juste par oui ou par non. Est-ce que tu souhaiterais que je t'offre 2 places de cinéma pour aller mieux?
Bah oui, ça ferait plaisir.
Oui, ouais. Même si c'est le film Hostile.
Oui.
Oui, c'est un film de Christian Bale dans un western haletant. Il y a également 2 places à gagner tous les jours sur Twitter. Voilà, c'est 2 places de ciné pour toi.
Continuez, Quentin, à être des vrais supporters, parce qu'on adore ça. Voilà, Daniel l'a dit, on adore ça et c'est très utile au football. Voilà.
Et c'était la vie tranchée de Daniel Riolo. On voulait ce soir évidemment parler de Lille. Nous, on se retrouve dans quelques instants pour la vie tranchée de Pierre Ducrot aussi. On va se régaler sur l'AS Monaco.
Foot à présent.
Attention, j'espère que tu as bien préparé ton intervention. Tu vas notamment nous parler de Leonardo Jardim pour toi et de très loin. C'est le meilleur entraîneur de la Ligue 1, voire du monde. Peut-être que j'en dis trop. Là, tout de suite sur RMC BFM Sport pour l'after.
RMC, le super football show, Jean-Christophe Drouet.
L'after est de retour avec Daniel Riolo, avec Pierre Ducrot et avec nos drôles de dames. Ce sera à partir de 23h, priorité au live évidemment, car il se passe beaucoup de choses à Lens pour cette rencontre de Ligue 2. En clôture de la 29e journée, Lens-Bourg-en-Bresse, Jean Baumel, ça va mal pour les Lensois, les supporters ne sont absolument pas contents.
Ah, et ça c'est clair, ça fait 1-0 pour Bourg-en-Bresse hein, qui lutte pour le maintien tout comme le Racing Club de Lens. Bon, Lens a toujours 4 points d'avance sur le barragiste, hein, non 3 points en tout cas.
3 points, ouais.
3 points, c'est Nancy qui est les derniers barragistes. On va suivre le corner, en tout cas il y a beaucoup de banderoles et les stadiers qui sont prêts aussi à intervenir en cas de débordement et le ballon qui fuit toute la défense des joueurs de Bourg-en-Bresse et les Nantois qui vont essayer peut-être d'arracher l'égalisation là, avec un ballon en profondeur et non, c'est capté par le gardien Calamand, le gardien de Bourg-en-Bresse. Il reste une minute dans le temps réglementaire, il y aura du temps additionnel, ça c'est sûr puisqu'il y a eu pas mal de changements, mais pour l'instant il n'y a que des banderoles, il y en a un paquet en tout cas depuis le coup d'envoi. Je vous explique un petit peu le scénario de cette rencontre. C'était prévu, hein. Ils avaient fait un communiqué, les supporters lensois, qu'ils n'allaient pas encourager leur équipe. Ils allaient surtout les chambrer avec des chants, aller les chèvres, entre guillemets, plus des choses moins sympas, des banderoles diverses et variées. Je peux vous dire qu'il y en a eu au moins 30 différentes. C'est assez impressionnant, en tout cas au niveau logistique. Ce qu'ils ont fait, c'est assez hallucinant, les supporters. Si ça en reste là, c'est bien. S'il y a débordement, bah là, on va repartir dans un truc un peu, j'espère pas comme à Lille en tout cas, mais les stadiers sont prêts. Hein. Je peux vous dire qu'il y a du monde sur les coups. Il y a les deux coins du COP Lensois, ils sont 15 d'un côté, 15 de l'autre, plus au milieu, une bonne vingtaine, donc voilà, ils sont prêts en cas de débordement d'intervenir.
On t'enverra peut-être plus dans un stade.
Écoute, je porte la poisse, mais en tout cas, en gros, ça veut dire aussi que le foot nordiste se porte pas très bien quand même.
Hein. Oui, exactement, c'est surtout ça.
C'est un peu un syndrome, hein. Même Valenciennes, c'est pas génial ce qui se passe.
Voilà. C'est pas un peu de ta faute tout ça.
Au final, c'est Amiens qui s'en sort le mieux, parce qu'on pensait les voir à la place de Metz.
À la question, quoi.
Ouais, mais tu vas pas les voir, Amiens, cette année-ci. Tu vas les voir.
J'ai vécu.
Zubo, à une époque, t'as connu 4 clubs en Ligue 1.
Ben oui, tu vois.
Maintenant, ils y sont plus.
Je vais peut-être en connaître plus
qu'un
seul.
Comment t'auras pas ta part de responsabilité dans cette histoire?
Écoute, je sais pas, Daniel. Il va falloir approfondir tout ça.
Réponds-moi juste par oui ou non, Jibo. Est-ce que tu as été voir Amiens cette année?
Mais c'est pas sa zone.
Oui,
il a fait Amiens-Lille notamment. Amiens-Lille, il a fait Lille contre Montpellier. Et là,
Amiens-Lille avec malheureusement la barrière, parce qu'il y a aussi cet épisode-là qui s'est passé pour le LOSC.
Mais il snode un peu, Amiens.
Non, je fais beaucoup les matchs et je peux vous dire que ce que fait Christophe Pelissier avec le budget qu'il a, bravo.
Et puis rendons à César ce qui appartient à César. Hein. C'était une interview exclusive de Jean Baumel tout à l'heure avec Gérard Lopez. Je ne l'ai pas signifié. On revient te voir dans quelques instants. Jean, parce que nous allons passer à l'avis tranché de Pierre Ducrot.
Moi, il y a un truc qui m'énerve, Jonathan, par contre, c'est quand t'emploies des mots que je connais pas. Exogène. Tu pouvais pas dire un recrutement qui vient de l'extérieur?
C'est vrai que exogène dans un débat de foot.
Qui emploie exogène dans un débat de foot en plus.
Oui, tout à fait. À un certain moment, j'enlevais des points d'ailleurs pour des mots compliqués. Tu veux nous parler de l'AS Monaco? Alors, je précise juste que l'AS Monaco, solide deuxième du championnat, qui s'est imposé vendredi soir sur la pelouse de Strasbourg, 3-1, 4 points d'avance.
Ne sait plus parler personne,
sur Marseille et 9 sur Lyon.
Je vais être franc. On a échangé quelques mails cet après-midi et l'idée vient pas de Daniel, mais il à un moment donné, il a parlé de Monaco dans ses mails.
Ça t'a titillé.
J'ai dit, c'est vrai.
On s'est dit, mais putain, merde,
il a pas tort. On parle jamais de Monaco, quoi. Voilà. On parle énormément du Paris Saint-Germain. On parle énormément de l'OL et de l'OM.
Voilà, ça
tous
va
les week-ends,
plus, hein,
toutes les semaines.
C'est le duel. C'est ce qui reste d'intéressant dans notre Ligue 1.
Bah voilà, c'est ce qui reste d'intéressant. Sauf qu'à un moment donné, si on prend un peu de recul, pas tant que ça quand même, pour s'apercevoir qu'on parle pas de Monaco, alors que Monaco est deuxième, tu l'as dit, solide, 63 points à la 29e journée, 5 de moins uniquement que la saison dernière qui était qualifiée de saison extraordinaire.
Stratosphérique, voilà. Ça c'est incroyable. Cette stat elle est vraiment
incroyable. On n'en parle pas, quoi. On n'en parle pas dans les médias. Nous aussi, on se met dedans.
Est-ce que c'est différent de ce qui a toujours prévalu dans l'histoire les concernant? Soit ils jouent le titre et on en parle, soit en Coupe d'Europe ils font un parcours et t'en parles, sinon t'en parles. Monaco,
ouais,
c'est...
Ouais, peut-être, mais c'est pas normal. C'est pas normal.
Moi,
alors...
je sais pas si c'est pas normal, mais le problème c'est qu'on répète tout le temps, c'est pas normal, mais il n'empêche que, de toute façon, tu parleras plus des autres clubs.
Alors on parlera plus des autres clubs. Alors on va aussi
tout simplement
on va aussi,
parce qu'on en revient à ce qu'on disait.
On va aussi
avis,
nous dire
parce que tu as une, comme ils disent en Espagne, une aficion moins prononcée.
Ouais, alors je veux bien. Sauf
parce
sauf
que indirectement,
sauf qu'à la SM,
indirectement, tu
ça
sais
passionne moins de gens.
Que tu vas intéresser beaucoup moins
ça
de gens.
Ça passionne moins de gens. Sauf que nous qui sommes.
C'est comme si toi t'as une bonne blague qui fait marrer
j'ai
les
bien
gens.
Compris
tu risques
Daniel.
De la ressortir quoi.
J'ai bien compris pourquoi Daniel.
Sauf la blague pourrie qui a fait rire que deux personnes.
Non. Vas-y. Mais ouais, mais tu sais quoi, ça dépend des deux personnes que tu fais rire. Si c'est deux personnes que tu aimes énormément,
je suis également d'accord.
Et ben ça suffit.
J'entends tout sur le sujet.
Et là, pour nous, acteurs des médias du football, ça devrait pas nous échapper tant que ça finalement. Et on devrait en parler parce que la SM est pas juste là parce qu'elle a un beau budget. Parce que sinon, bah, Lyon serait largement devant. Non, la SM est là et la différence pour moi avec toutes les autres grosses cylindrées, et je mets le PSG avec, même s'ils sont devant, parce qu'il y a un effectif qui est extraordinaire pour la Ligue 1 en tout cas. C'est son coach, c'est Léo Jardim qui fait des miracles chaque année. Alors si c'est pas des miracles, en tout cas c'est de très 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 bonnes choses. Alors que chaque année c'est bis repetita, c'est le même process. Il y a un mercato, on le déplume pas mal de ses meilleurs joueurs en général, voire de ses meilleurs jeunes également avant qu'ils soient de meilleurs jeunes. Ces joueurs-là partent, et d'ailleurs c'est intéressant, sont pas toujours aussi bons quand ils partent ailleurs. Il y a pas mal de cas, on pourrait s'y pencher dans un autre avis tranché. Quand ils sont plus à la SM ou en tout cas plus avec Jardim, selon moi, c'est beaucoup plus difficile pour eux, même s'ils sont dans des équipes avec des effectifs peut-être meilleurs.
Tu penses notamment à Bernardo Silva.
Ouais, par exemple, et encore que il est pas mauvais.
Il est dans une concurrence de dingue.
Ouais, je penserais plus à des Levin Kurzawa, un Bakayoko qui a du mal à Chelsea en ce moment. Il y a pas mal d'exemples comme ça qu'on pourrait citer. En tout cas, le process dont je parlais est le même, c'est-à-dire mercato, déplumage. On lui redonne quand même, on va être honnête, quelques bons joueurs, quelques espoirs, certains bons jeunes du centre de formation qui arrivent. Et débrouille-toi. Et il se débrouille. Il essaye. Ça marche pas. Il réessaye autre chose. Il y a des joueurs clés dans son effectif qui sont censés être des titulaires indiscutables. Quand ça marche pas, sans faire de vagues, avec du calme, avec de la rigueur, de l'exigence, mais toujours du calme. Il les met de côté de temps en temps. Il les remet à petite dose et ils reviennent et ça marche. Et à la fin de saison, allez, vers le 12 mars, on s'aperçoit que finalement, Léo Jardim a encore fait quelque chose d'extraordinaire. Il a encore bâti un effectif. On lui a enlevé ses latéraux. Il en a remis d'autres. Il en a trouvé d'autres. Falcao est blessé. Jovetic joue et tu vois quasiment pas la différence. Pourtant, ce sont des profils différents. Il y a d'autres coachs qui diraient, mais dans mon système, ce profil-là, il va pas. Lui, il dit rien. On l'entend jamais. Ou quand on l'entend, c'est pour parler de foot. Moi, j'adore. Et ça marche. Et ça marche à chaque fois. Et moi, je vais être beaucoup plus court que Daniel. Pardon, je vais finir comme ça. Si j'étais un club français aujourd'hui qui avait besoin d'un coach, je me poserais vraiment la question si Léo Jardim pourrait être le bon. Et je serais très heureux qu'on puisse le garder en France si jamais il quitte la SM.
D'ailleurs, je vous parlerai d'un autre entraîneur tout à l'heure dans les questions de l'after. On reparlera de Laurent Blanc. Je n'en dis pas plus, petit teasing. Mais je vais vous demander.
Il est déjà moisi,
ton teasing.
Il est
foutu, ton teasing. Oh là là, tu peux te relever. Là, c'est...
Vous, ça ne vous plaît peut-être pas, mais je sais qu'on nous écoute énormément et je sens que ça fait un carton pas possible. Jean Baumel, la défaite de Lens.
La défaite de Lens, et surtout ça se passe bien. C'est ça c'est ça qui est rassurant, parce que tout le monde avait un peu peur du débordement.
Bravo
et voilà, ils ont fait une trentaine de banderoles. Alors tout d'abord défaite, c'est important, défaite de Lens 1-0 face à Bourg-en-Bresse, du coup qui sort de la zone rouge. Lens qui est avec 3 points d'avance sur le premier relégable qui est Nancy. Donc voilà, il va falloir encore batailler ferme pour s'en sortir du côté des 100 ailleurs. Mais voilà, les supporters ont décidé. En fait, l'origine de cette manifestation contre leurs joueurs, des banderoles, des chants, c'est suite à l'élimination face aux Herbiers, parce qu'il n'y avait pas eu de match à Bollard depuis.
Il y avait un coup à faire en coupe en plus.
Ah bah oui, t'imagines, qualification, tu recevais Chambly à Bollard. Enfin bref, on va pas refaire l'histoire.
Ouais, tu faisais une finale au Stade de France contre le PSG, ça te rappelait des bons souvenirs.
Ah oui, oui.
2008,
oui,
tout ah ça, oui, une petite banderole en plus, et on était bien.
Oui, exactement. Ouais, sur le fait, ouais. Mais en tout cas, voilà, pas mal de banderoles, des banderoles drôles, des banderoles un peu dures.
Et là, tu faisais chialer Fred Armel pour 20 ans.
Et ça, c'est,
ça s'est allé pour 10 ans. Il en prenait pour 20 ans.
Oublié.
Bon, j'en fais souvent référence, messieurs, à il y a 20 ans. Vous savez, il y a 20 ans, en 98.
Bah oui, le titre. Ah, moi, je m'en souviens bien, Jibo. Hein,
voilà. À l'époque, on avait des héros et aujourd'hui, on a des chèvres. Voilà. Ils ont fait beaucoup de références par rapport à 98 et aujourd'hui, en gros, il n'y a plus rien. Voilà.
Merci beaucoup, Jean Baumel.
Bonne soirée à tous.
Et je rappelle que Lens est 15e de la Ligue 2 avec 31 points. Ajaccio 16e avec 31 points. Bourg-en-Bresse qui vient de s'imposer à Bollaert, 17e, 30 points, et Nancy, 18e, avec 28 points. Je vous épargne Quevilly et Tours, parce que ça sent quand même un petit peu la charrette. On va accueillir un supporter monégasque.
Non, il faut que je réponde à Pierre avant le supporter, mon ami. Excuse-moi.
Raphaël,
on priorise dans l'émission. Raphaël,
je suis complètement désolé.
Raphaël,
tu seras là. Tu vas arriver dans quelques instants, mais mes priorités à Daniel Riolo. Vas-y,
Daniel. Parce que je suis pas du tout d'accord avec toi, Pierre.
Ah.
Pas du tout.
Dis-moi.
Et je suis sûr que tu, et d'ailleurs, je suis vachement étonné que tu dises ça. Non pas que Jardim soit
que ce soit grâce à Jardim que la SM soit
non là. Mais non pas que Jardim soit pas un bon entraîneur, c'est un très bon entraîneur qu'on a défendu ici dès qu'il a mis le pied
que
en France,
que ce soit le meilleur de Ligue 1.
Ouais.
Parce que t'as Ranieri ou parce
non,
que t'as d'autres entraîneurs
non,
avec d'autres
que,
équipes
parce que non
parce
mais
que j'ai essayé de me dire
je voudrais dévier un petit peu. Non mais en fait je voudrais dévier un peu parce que et t'as cité des joueurs qui quand ils quittent Monaco, t'as pas retrouvé les performances mais pourquoi bien? Parce que jouer à Monaco ou entraîner à Monaco, c'est pas le même métier que jouer au PSG ou à Marseille. C'est pas la même chose.
Ouais, enfin c'est pas forcément ceux qui sont partis au PSG ou à Marseille. T'en as d'autres.
Non mais quand tu
c'est pas pareil que jouer chez City, tu vas me dire.
Si tu dis par exemple Jardim comparé, tu dis Jardim comparé à Emery ou Garcia ou Rudy Garcia. Ouais. Pour moi, ils font pas le même métier.
Ouais, mais moi,
pour moi, ils font pas le même
métier. Mais tu veux que je te réponde? Je pense que Jardim ferait aussi bien, voire peut-être mieux qu'un Unai Emery au Paris Saint-Germain.
Mais moi, je n'en sais rien.
Je te dis pas que c'est le coach qu'il faut au PSG l'année prochaine, j'ai pas dit ça.
Moi, je n'en sais rien.
Mais ce que Rudy Garcia a fait,
ce que Rudy Garcia a fait cette année, avec ce qu'il a pris dans la gueule au début de la saison, uniquement pour deux matchs complètement raté où plus personne ne croyait l'OM capable de remonter, la façon dont il a remis tout le monde, moi, je ne dis pas que c'est pas possible. Je dis que je n'ai pas les éléments qui me permettent de dire que Jardim aurait pu le faire, parce que Jardim n'est pas
non,
confronté
bien sûr,
à ça.
Et on pourra jamais le dire.
Je ne peux
avec
pas
des
savoir,
si,
moi, comment Jardim aurait pu supporter tout ce que Emery peut supporter au PSG. La gestion des stars.
Non, on le saura jamais, forcément.
Par l'institution, on ne sait pas.
On le saura
ça
jamais.
Ça nous ramène à la phrase de Zidane l'autre jour,
c'est
qui a beaucoup d'humilité
dis, dis,
et
Daniel.
De clairvoyance, a dit, mais c'est le métier d'entraîneur, ça n'est pas que ça. Ça dépend également d'un énorme, du contexte dans lequel t'évolues.
Et ben, justement,
quand tu dis, c'est pas le même
contexte,
métier.
Le contexte monégasque.
À Monaco, tu travailles dans un confort qui est extraordinaire,
Daniel,
pour les joueurs,
je
pour l'entraîneur.
Alors le
t'es
confort,
pas dans le confort,
le confort au niveau de la pression
pas
des supporters, etc.
Mais de
oui,
tout, on n'en parle pas. On l'a même dit tout à l'heure, on n'en parle pas, Pierre. On n'en parle jamais de Monaco.
Je te jure,
ils ont fait quatrième de poule en Ligue des Champions, on n'a rien dit.
Le confort de la pression médiatique, le confort de la pression des supporters. Je suis d'accord.
Ah bah, c'est pareil,
redémarrer à zéro comme chaque année il a fait, parce qu'on lui enlève tous ses meilleurs joueurs. Je te jure, qu'il y a plein de coachs qui se seraient barrés avant lui.
C'est un super entraîneur pour ce motif.
Oui, mais c'est uniquement ça que je constate.
Mais dans le métier d'entraîneur, il y a une autre dimension. La dimension.
Oui, quand t'es ailleurs, je suis d'accord.
La dimension technico-tactique. De recommencer comme il fait. C'est extraordinaire.
Il est extraordinaire.
Mais j'ai envie de te dire que.
Il
rien ne me dit
que
Garcia, Emery, machin, ne l'aurait pas fait non plus.
Oui,
même
peut-être.
Si c'est très fort.
Oui,
mais,
oui, mais
la dimension.
On peut pas comparer
coaching et management dans club star, pression, dirigeant, pression médiatique, comme ça peut exister.
C'est pas le
à
même
Paris,
contexte.
Marseille, dans une moindre mesure, à Lyon. Mais également à Saint-Etienne où tu as ce genre de soutien populaire, mais ça n'a rien à voir.
Ça n'a rien à voir. Je n'ai pas dit
Pierre,
que
on en parlera dans quelques instants.
Et ça n'enlève rien aux qualités de Jardim.
J'ai pas dit ça.
Merci beaucoup parce que là c'était priorité à Daniel
et Raphaël.
Je voulais donner la priorité à Raphaël, mais non, priorité à nos salaires. Donc on revient dans quelques instants, Raphaël, pour évoquer la situation de l'AS Monaco. Est-ce que tu es plutôt Pierre Ducrot? Est-ce que tu es plutôt Daniel Riolo?
Non, sur le fond, on est à peu près d'accord.
La question dans quelques instants et la réponse dans l'after sur RMC et BFM Sport. A tout de suite.
RMC, le super football show, Jean-Christophe Drouet.
L'after foot avec Daniel Riolo, avec Pierre Ducrot. Vous pouvez nous entendre sur RMC, nous voir sur BFM Sport et venir participer à cette émission 32-16. D'ailleurs, nous parlions de Monaco. C'était la vie tranchée de Pierre Ducrot il y a quelques instants. Nous accueillons enfin, il va nous pardonner, enfin j'espère, Raphaël, supporter monégasque. Salut Raphaël.
Bonjour messieurs, oui je pardonne, il n'y a pas de souci.
C'est vrai Raphaël.
Alors, qu'as-tu pensé de la vie tranchée de Pierre Ducrot qui nous parlait de cet AS Monaco dont on ne parle pas et de Leonardo Jardim qui est le meilleur entraîneur de la Ligue 1?
Je suis un peu d'accord avec les deux avis de Daniel et de Pierre.
Tu viens de Monaco ou de Suisse?
Mais Monaco est neutre, hein, ça.
C'est vrai.
J'habite à Monaco, mais j'ai mon arrière-grand-père qui est suisse.
Voilà. Il a une idée, Jean-Christophe.
Vas-y, Raphaël.
Donc, bon, déjà, je suis d'accord qu'ici, il n'y a aucune pression, parce qu'en fait, on a perdu 4-1 en Ligue des Champions contre Leipzig, et personne n'en a parlé, comme si Paris allait perdre un match de Ligue des Champions. Donc, c'est passé comme une lettre à la poste, cette défaite. En Ligue des Champions, on a été zéro alors qu'on est champion en titre. Et puis après, ben, il faut repartir au travail. Et Jardim a très bien géré l'après-Ligue des Champions. C'était très compliqué. Chaque année, on le dit et redit, il bricole. À son arrivée, Rames et Falcao sont partis. Alors qu'il avait un effectif pour lui, pour son arrivée. Et chaque année, il y a des joueurs majeurs comme Martial, etc. Ils sont partis vers d'autres clubs. Donc, pour lui, apprendre chaque année avec une nouvelle équipe et un nouveau groupe, c'est quand même très difficile. Et c'est un truc de fou. Jardim, il vit le foot, il respire foot et il est très intéressant parce qu'en dehors du foot, j'ai lu une interview qui disait beaucoup de livres, tout ça. Il s'ouvre beaucoup, il est beaucoup ouvert d'esprit et j'ai vraiment chapeau à ce monsieur. Il apprend, je pense, tout son groupe par cœur. Il tire les joueurs vers le haut et puis je sais pas comment on peut dire.
Merci Raphaël, on a quasiment plus le temps de parler de Monaco, je suis désolé, mais il va falloir qu'on avance un petit peu parce qu'on a plein de choses à vous dire dans l'after. En tout cas, on a compris le message sur Leonardo Jardim, merci beaucoup et à bientôt sur RMC. Moi j'ai juste une dernière question à vous poser. Si la SM termine deuxième, c'est vrai avec tout ce qui s'est passé au Mercato, mais sans gagner de titre et en étant éliminé dès le début de la Ligue des Champions, est-ce qu'on pourrait dire que c'est une saison réussie? Oui ou non?
Moi je dis oui. La SM va pas aller chercher une demi-finale ou une finale de Ligue des Champions tous les ans. C'est compliqué.
C'est
deuxième d'un championnat où t'as le Paris Saint-Germain devant.
Ok.
C'est la meilleure place.
Écoute, ça veut dire
qu'il surpasse Lyon, qui a 240 millions de budget cette année, alors qu'eux en sont à 160 ou
160. Et finale de la Coupe de la Ligue.
C'est réussi. D'abord, ils ont ça et ils peuvent la gagner, mais surtout, Monaco, c'est un Monopoly qui a réussi. On parlait de Lille qui est un Monopoly où le mec a perdu. Mais là, eux, ils gagnent, les Monégasques. Ils y arrivent, ils mettent bien les petites maisons, les petits hôtels.
Ouais, mais parce que t'as 2-3 joueurs qui jouent beaucoup mieux au Monopoly qu'ailleurs.
Les dirigeants ont bien joué.
Ouais, les dirigeants, les Jardim,
pour l'instant, dans la partie, ils sont bien. Donc bon, effectivement, eux, être en Ligue des Champions tous les ans pour valoriser les joueurs à les vendre, puisqu'on rappelle que le projet Monégasque, à la base, il est similaire, sauf que les Monégasques ont vraiment l'oseille, alors que Lille, ils ont pas l'oseille. Mais c'est du trading
et
de joueurs.
Et qu'on voit du beau foot en même temps.
Et le beau foot, tu le vois parce qu'ils ont eu le temps de mettre la machine en route. Ouais, donc oui, ils ont réussi s'ils font deux, bien sûr.
Ouais, mais dès le départ, c'est ça qui est fort. Dès le départ, dès l'arrivée de Jardim et du projet monégasque, il y a eu 6 mois au départ. Après ça a pris.
Ouais. Et si avec tout ça, on gagne pas des jeux de société quand même, parce qu'on a beaucoup cité la marque Monopoly.
On a eu le champion du monde. On connaît très bien le champion de France de Monopoly qui est venu dans le RMC Poker Show.
C'était pas champion du monde.
Qui m'a offert 2 boîtes, non, champion de France. Il a pas réussi à être champion du monde encore.
T'as eu que le champion de France.
Champion de France.
D'accord. On l'invitera un mercredi. Le coup dur pour Nabil Fekir. On va commencer les questions de l'after. Soyez efficaces, s'il vous plaît, messieurs.
Ouais. Le capitaine court, c'est ça?
Exactement. En langage journaliste et télé, ça veut dire
d'accord,
très court.
J'apprends
le capitaine lyonnais qui va subir une arthroscopie du genou droit demain, durée de son indisponibilité. Au moins 3 semaines. Il y a la liste de Didier Deschamps. Parce que j'ai très envie de parler de Laurent Blanc dans quelques instants. La liste de Didier Deschamps pour 2 matchs, la Colombie et la Russie, c'est 7 semaines. Est-ce que ça va être un problème, ça? Parce qu'il ne sera pas appelé et c'est la dernière liste avant la liste des 23.
Un problème pour lui dans l'éventualité de ne pas être au bout au final. Bon, je pense que ce qui va se déterminer surtout, c'est son état de forme et sa fin de saison.
Quand il va revenir.
Ce qu'il va faire. Il n'a pas sa place assurée à 1000%. Il va falloir qu'il revienne, qu'il soit en forme et qu'il fasse des bons matchs, tout simplement.
Alors, on parle de...
Est-ce que un Fekir fatigué comme il l'était en ce moment et un peu diminué physiquement, est-ce que cette période de calme, justement, ne va pas lui permettre de finir en trombe plus fort? Un peu comme il l'a été au début de saison, et justement lui permettre de rejoindre l'équipe de France.
Autre question dans l'after, elle concerne Dani Alves, le latéral droit du PSG, qui est revenu aujourd'hui sur l'élimination face au Real dans la presse brésilienne. Je cite, « J'ai tendance à croire, et je crois que les éliminations n'arrivent jamais par hasard dans nos vies. Je l'ai vécu en sélection du Brésil parce qu'il n'y avait pas cette connexion et ça ne pouvait pas marcher. Et j'ai déjà vécu cette situation et je sais ce qui se passe. Il n'y a pas de connexion. Pour moi, le PSG est un club qui est dans un processus de transformation et il va devoir souffrir un peu parce que ce processus va être très ardu. Il parle aussi de Lyon, de manque de Lyon. D'accord ou pas avec
bah écoute, le mec qui vient d'arriver, déjà il parle, ouais, il se prend pour le patron, genre je sais tout, je parle, et en plus j'impose ma présence sur le terrain à l'entraîneur parce que je fais ce que je veux, parce que les dirigeants, j'en fais ce que je veux, c'est moi qui décide. Ça fait 5 ans maintenant que le PSG est en Ligue des Champions, ça fait un petit peu plus 7 que les nouveaux dirigeants sont arrivés et qu'ils investissent. Moi, ce que j'ai envie d'entendre, c'est les dirigeants de ce club nous expliquer ce qu'ils vont faire et comment ils vont faire progresser un club qui ne progresse plus. L'analyse de Dani Alves, je pense que n'importe quel supporter de base du PSG
Sais ce que c'est la différence,
la faire, voilà.
Enfin, pour moi en tout cas, ce que je ressens comme différence là, c'est intéressant, j'adore entendre ça, c'est qu'il est dans le groupe. Il dit qu'il connaît la raison de l'élimination. Ouais. C'est que ça manque de Lyon. Ouais. Il a été pris pour son expérience, c'est justement pour le vestiaire. Et depuis 6 mois, 7 mois, 8 mois, il fait quoi? Enfin, je sais pas plus combien de temps il est là, mais.
Bah, je sais pas.
8 mois, 9 mois, il fait quoi alors? S'il avait la solution.
Il n'a pas assez travaillé sur le Lyon.
Il n'y en a pas plus de Lyon aujourd'hui. Il y en a peut-être même moins que l'année passée. Ça veut dire que, à un moment donné, si t'as la raison.
Ceux qui sont arrivés.
Les solutions fait.
Voilà.
J'ai une dernière question à vous poser. On va parler maintenant de Laurent Blanc. Oh oui, je vous l'ai promis depuis quelques minutes. Qui a déclaré aujourd'hui, en marge de la conférence de presse pour l'annonce du match de gala entre France 98 et FIFA 98, ce sera le 12 juin prochain, qu'il n'était pas contre se lancer dans un nouveau projet. Il a même dit, à un moment donné, et un projet au Paris Saint-Germain, il a dit pourquoi pas, ça paraît très compliqué, mais on pourrait l'étudier. La Ligue 1 doit-elle se jeter sur Laurent Blanc?
Ah bah c'est marrant, un nouveau projet. Depuis qu'il est parti, non seulement à la Ligue 1, mais nulle part on a eu envie de lui. Donc à un moment, il faut se poser 2-3 questions. Quoi.
Tu crois que Laurent Blanc n'est pas un coach qui pourrait réussir quelque part en Ligue 1 aujourd'hui ou même ailleurs?
Je sais pas pourquoi personne en veut alors.
Je sais pas, je connais pas la raison.
Tout simplement parce que
honnêtement, il y a des clubs où pour moi il y a des coachs plus mauvais que Laurent Blanc.
Mais le problème, c'est que le coach celui qui a été coach pendant 3 ans au PSG, il est à Saint-Etienne maintenant. Donc à un moment, il va falloir déloger le mec qui est à Saint-Etienne pour qu'il revienne entraîner à côté de Laurent Blanc.
Oui, je vois. Alors, on va expliquer pour ceux qui n'ont pas compris.
Non, mais je pense que tout le monde a compris.
C'est parce que c'est l'adjoint qui coachait pour toi?
Pour moi, non, pour tout le monde, hein, Pierre.
Ah, oui, non, mais
pour tout le monde sur cette planète.
C'est un duo, depuis toujours.
Donc, il va falloir sortir l'entraîneur de Saint-Etienne pour qu'il vienne. Non, mais enfin, voilà, stop. S'il était si fort que ça, il aurait trouvé. Tu sais, moi, pendant des années, je me suis pris la tête avec tout le monde sur Paul Le Guen. C'était fantastique, machin. Bon, après, quand il était à Lyon. Évidemment, tout le monde savait que il faisait rien. Donc après, au PSG, on a vu. Et puis après, plus rien. Il est plus là. Il a disparu, le gars. Le gars, il a disparu. Cameroun, catastrophe. Oman, est-il utile d'en parler? S'il était si fort, mais pourquoi il a jamais trouvé de taf?
Pourquoi il est allé nulle part?
Non, mais moi, c'est comme quand les mecs défendent Payet, fantastique et tout. Ok, pourquoi 31 ans, il a aucun titre, et jamais un grand club s'est penché sur lui. Au bout d'un moment, les gars.
Merci Daniel. Vous ne vouliez pas parler de Laurent Blanc, finalement, ça vous fait énormément parler.
Non, je répondrai oui à ta question, en tout cas.
Mais en plus, il est tellement prétentieux qu'il y a un tas de clubs dans lesquels il veut pas aller.
Merci Daniel, on se retrouve dans quelques instants. On va tous parler en même temps, s'il vous plaît, messieurs. Merci Pierre, merci Daniel. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'After sur RMC et sur BFM Sport. On va accueillir nos drôles de dames et notamment Philippe Auclair qui sera présent physiquement dans le studio. Allez, à tout de suite. On va parler de Paul Pogba d'ailleurs, parce que ça réussit pas trop.
Je peux avoir Philippe Auclair à côté de moi?
Oui, on va le mettre à côté de toi. Allez, à tout de suite sur RMC.
RMC, le super football show, l'After Foot.